Entre curieux.
Bonjour, bienvenue à bord.
Sur RTL.
Vous êtes sur le pont Aloha, cabine 101.
Ah, cabine boum boum boum.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Disons que votre cabine est plutôt petite.
Et elle est placée au-dessus des machines.
Et toute la nuit, on entend boum.
Non. Boum boum.
Ça ne fait rien. Ça fait longtemps qu'on économise pour ce voyage. Et s'il n'y a qu'un boum boum boum, c'est pas trop grave. Là.
Forcément, extrait de la croisière s'amuse. Bonsoir Dorian d'Allongeville, bienvenue.
Bonsoir.
Bienvenue chez nous.
Heureux de vous accueillir dans la curiosité. Vous êtes historien de la marine marchande. Vous allez nous faire voyager dans le temps et on va s'offrir un voyage transatlantique comme dans les années 30. Nous voilà à bord du paquebot Île-de-France. Est-ce que vous pouvez nous le présenter pour commencer?
Oui, bien sûr. Île-de-France est un navire d'exception au destin atypique et qui, étrangement, a été un petit peu oublié ces dernières décennies. Et pourtant, Île-de-France, c'est un navire et trois vies, si je peux dire. La première partie de sa vie, c'est entre 27 et 39. C'est vraiment le navire de l'art déco. C'est l'ambassadeur flottant de l'art de vivre à la française. Mmh. Il y a une deuxième période de sa vie ensuite, pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il va servir la France d'une certaine manière. Et puis, la dernière période de sa vie, c'est la décennie d'après-guerre, où il est complètement refondu et repensé. Et entre 1949 et 58, il va aller de nouveau servir sur la ligne de l'Atlantique Nord.
Alors ça, c'est pour sa belle histoire. Et maintenant, physiquement, il ressemble à quoi quand on est au pied de ce paquebot France, on voit quoi ?
Île-de-France.
Île-de-France.
Alors, c'est un navire qui est de dimension assez raisonnable, si on peut dire, puisqu'il mesure 242 mètres de long.
Tout est relatif.
28 mètres de large. Mais ouais. Si on fait la comparaison avec le paquebot Titanic quelques années auparavant, parce que là, on est en 1927, Titanic, ouais. C'est 1912, Titanic mesurait 269 mètres. Donc, il était plus long que Île-de-France. Mm-hmm. Si on compare aussi avec Normandie, quelques années plus tard, il atteindra 313 mètres. Et si on compare avec Symphony of the Seas en 2018, le plus grand paquebot du monde, lui, atteint 362 mètres. Donc avec ce navire de 242 mètres, la compagnie générale transatlantique mise avant tout sur l'art de vivre, plus que sur la vitesse et le gigantisme.
Alors justement, on traverse l'Atlantique en une petite semaine, y a combien de personnes à bord et qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette traversée, on disait voyage de luxe?
Alors on traverse sur Île-de-France l'Atlantique en 5 jours et quelques heures. Mmh. C'est à une vitesse moyenne de 23 nœuds, c'est-à-dire à peu près 43 km/h. Alors que pour le paquebot Washington en 1864, donc quelques années auparavant, quelques décennies auparavant, on mettait 14 jours. Donc on voit quand même déjà la progression qui s'est effectuée en peu de temps.
Combien de personnes à bord ?
Alors, combien de personnes ? 1550 passagers qui sont répartis ainsi. En 1927 en tout cas, on a 658 passagers en première, 398 en deuxième et 494 en troisième, auxquels il faut ajouter bien sûr les 800 membres d'équipage. Et oui. Soit une petite ville flottante de 2350 personnes.
Il faut les nourrir, ces 2350 personnes. Qu'est-ce qu'on embarque ? Quelle tonne de marchandises et quel genre de marchandises on embarque ?
On embarque énormément de choses. Pour vous donner un exemple, sur le premier départ du paquebot Île-de-France, des chiffres qui sont tout à fait délirants. 65 000 bouteilles de vin, 1500 poulets, 500 homards, 6 tonnes de viande, 400 terrines de foie gras truffées, 25 000 œufs, 350 tonnes d'eau douce qui va servir bien sûr à boire, mais aussi à se laver, et qui va servir à alimenter les différentes cabines et appartements.
D'ailleurs, puisqu'on parle d'alcool, comment ça se passe pendant la prohibition ? Parce que c'est un bateau qui fait la liaison entre le Havre et les États-Unis. On a le droit de boire de l'alcool à bord ?
Entre 1927 et 1933, c'est effectivement un navire qui vraiment doit affronter, si on peut dire, la période de la prohibition. Mais en fait, l'alcool à bord des paquebots français, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour la compagnie. C'est d'ailleurs la seule à proposer le vin à discrétion à bord, et ce qui contribue, dit-on, à l'atmosphère de fête. Et pendant la prohibition, la compagnie française va préférer parfois payer des contraventions aux douanes américaines plutôt que de refuser totalement de servir de l'alcool. Et l'anecdote dit également que le médecin du bord pouvait parfois prescrire des rations d'alcool pour contourner l'interdiction américaine. Mais c'était un jeu du chat et de la souris, oui. C'est-à-dire que voilà, il fallait absolument dissimuler tout l'alcool arrivant des eaux territoriales américaines.
Alors, il y a eu pas mal de célébrités qui ont embarqué à bord de ce transatlantique, par exemple Joséphine Baker.
Il y a deux amours.
Qui
Qui d'autre citez-nous quelques noms célèbres, quelques passagers célèbres de l'Île-de-France.
Je pourrais vous en faire une liste un peu à la Prévert.
Ouais.
Mais on a un petit peu de... C'est une sorte de micro-société en première classe. Mmh. Alors, je citerai Maurice Chevalier, les parfumeurs Léon-Xavier Givaudan, le futur président du Conseil, à l'époque Paul Reynaud, le directeur de la Metro-Goldwyn-Mayer, Jean Patou, le parfumeur, Fujita, le peintre, Serge Prokofiev, le prince Rainier, Pierre Mendès-France, et j'en passe encore bien d'autres. Il y a eu également des passagers qui ont marqué, bien sûr, de leur passage à l'Île-de-France. Je pense à Marie Curie, en 1929, par exemple, qui a embarqué pour aller chercher un gramme de radium offert par le peuple américain. C'est un épisode de la vie de Marie Curie qu'on a complètement oublié aujourd'hui. Oui. Et puis Vincent Auriol, en 1951, qui est le premier président de la République française à se rendre sur le territoire américain et qui emprunte un paquebot, bien sûr, français de la Transat, cette Île-de-France.
Cette ville flottante, vous pouvez la visiter dans cette exposition L'Art déco, un art de vivre. Le paquebot Île-de-France est au musée des années 30 de la ville de Boulogne-Billancourt. Et alors, surprise, Sidonie, sur ce bateau, on découvre
un hydravion. Mais pourquoi faire, voilà, c'est quoi, pas seulement pour frimer, à mon
à
avis.
À quoi ça sert?
Il y avait une véritable utilité. Restez avec nous, les curieux, sur RTL.
Arrêtez les gros bateaux.
Papa, c'est un paquebot.
T'as raison.
Si votre défaut, c'est la curiosité...
Il n'a pas l'air plus grand que le Mauritania.
Vous pouvez être blasé par beaucoup de choses, Rose, mais pas par le Titanic.
RTL.
Alors voilà donc le paquebot que l'on dit insubmersible.
Il est insubmersible. Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce paquebot.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il est 30 mètres plus long que le Mauritania. Et beaucoup plus luxueux.
La curiosité vous emmène à bord d'un paquebot transatlantique. Nous sommes dans les années 30 et pour relier New York depuis le Havre, nous sommes à bord du paquebot Île-de-France. C'est l'un des fleurons de la compagnie générale transatlantique et c'est l'historien Dorian d'Allongeville qui nous raconte cette histoire, qui nous sert de guide. On entendait un extrait de Titanic, le film de James Cameron. Est-ce que ce bateau, ce transatlantique, ce paquebot a permis de sauver d'autres bateaux?
Eh bien oui, il a un destin tout à fait particulier après-guerre sur ce point de vue-là. C'est vraiment un navire qui a une bonne étoile. Et il acquiert un surnom assez particulier, c'est celui de Saint-Bernard des Mers après-guerre. Il s'illustre dans toute une série de sauvetages, dont deux sont particulièrement marquants. C'est tout d'abord celui du paquebot libérien Greenville en 1953, où le navire va se dérouter après avoir reçu un appel SOS pour aller sauver l'ensemble de l'équipage qui était en perdition. Et puis surtout, le sauvetage, disons, le plus marquant, c'est celui du paquebot italien Andrea Doria, qui aurait pu devenir en 1956 le nouveau Titanic après le naufrage de 1912 que tout le monde connaît bien sûr. Le paquebot italien Andrea Doria était pris dans une brume, un brouillard extraordinaire au large de Terre-Neuve et il s'est fait éperonner dans ce brouillard par un paquebot suédois, le paquebot Stockholm. Ça aurait pu vraiment être une catastrophe terrible, mais Île-de-France a fort heureusement capté les signaux SOS du paquebot Andrea Doria. Il s'est dérouté, il a en cela obéi à cette longue tradition maritime de justement d'aller se porter au secours. Et des récits existent des passagers d'Andrea Doria qui pensaient véritablement sombrer corps et biens dans l'Atlantique, qui ont vu arriver cette silhouette miraculeuse dans le brouillard. Le paquebot Île-de-France est arrivé un petit peu au dernier moment. Le commandant du navire avait fait éclairer l'intégralité des lumières qui se trouvaient à bord, y compris les lettres Île-de-France qui étaient sur le pont. Et les gens ont vu arriver, enfin les personnes qui étaient bien sûr en cours de naufrage, ont vu arriver ces lettres miraculeuses au loin. Et s'en est suivie toute une opération de sauvetage qui a duré toute la nuit. Et donc le paquebot Île-de-France a secouru plusieurs centaines de personnes qui ont été rapatriées à New York.
Alors on va continuer de découvrir les particularités de ce paquebot transatlantique de luxe avec cette surprise. Il y a un hydravion à bord d'Orient d'Allongeville. À quoi ça sert? Pourquoi il est là?
C'est un peu un coup de communication en fait qui a été voulu par le président de la Compagnie Générale Transatlantique, ouais, qui était John Dalpiaz, un grand visionnaire. On dirait aujourd'hui qu'il a voulu faire le buzz. Alors il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc évidemment il a pris ce qu'il pouvait à l'époque et il s'est inspiré d'une technologie militaire qui était déjà existante sur certains navires, je pense aux croiseurs Primauguet, par exemple, de la Marine Nationale. Et donc il a fait installer une rampe de catapultage d'hydravions à bord d'Île-de-France. Alors c'était un petit peu le summum du chic, c'est-à-dire que les passagers les plus fortunés pouvaient envoyer avec un jour d'avance sur l'arrivée à New York ou au Havre leurs plis postaux qui étaient envoyés estampillés de la flamme Île-de-France à bord. Donc bien sûr c'était voilà, c'était le comble du chic. Ça coûtait très cher. Et d'ailleurs, c'était vraiment pas une opération rentable d'un point de vue commercial, je dirais, immédiat pour la compagnie. C'était un investissement sur le long terme pour recueillir des parts de marché et faire vraiment un coup de pub auprès de la clientèle aisée.
Pour vivre et pour voyager, vivre cette expérience de 5 jours de traversée de l'Atlantique, il fallait évidemment choisir sa classe. Première classe, deuxième classe, troisième classe. La première classe, ça représentait combien une traversée sur le paquebot Île-de-France?
Alors, on s'est amusé à l'occasion de l'exposition, justement, à faire un comparatif entre les dollars de l'époque et les tarifs que ça pourrait donner aujourd'hui en euros. Donc, bien sûr, on garde une certaine précaution, mais environ pour une suite présidentielle, l'équivalent d'une suite présidentielle, en fait, c'est-à-dire l'appartement de grand luxe sur Île-de-France en 1958, pour deux personnes, il fallait débourser l'équivalent de 23 600 euros pour 5 jours de traversée, mais avec la totalité du service compris, notamment l'ensemble des repas. Si on fait un rapprochement avec une suite présidentielle au Ritz sur une semaine, je pense qu'on peut tenir la comparaison.
Je vais vous prendre une troisième classe alors, si c'est possible. Et puis j'utiliserai pas l'hydravion, c'est pas grave.
Oui, le courrier arrivera avec un jour.
C'est pas grave, on l'apportera nous-mêmes.
C'est vraiment pas un souci. Je rappelle, Dorian de Longeville, que vous êtes le commissaire de cette expo, l'art déco, un art de vivre, le paquebot Île-de-France. C'est dans le musée des années 30 de la ville de Boulogne. Alors, on va visiter ces cabines parce que ce paquebot Sidonie, c'était un modèle du luxe à la française. On choisit quoi?
Une suite présidentielle.
Allez, alors soyons fous, une suite présidentielle.
A tout de suite sur RTL.
Sidonie Bonnec.
Bienvenue à bord, mademoiselle.
Thomas Hugues.
Je suis sûr et persuadé que vous allez passer une merveilleuse croisière.
Oui, je suis du pour ça.
La curiosité est un vilain défaut.
Je me demande si c'est vraiment une bonne idée d'avoir affrété ce bateau pour faire des croisières.
Sur RTL.
Mais oui, vous allez voir, on va s'amuser.
Oh, mon bateau.
Éric Morena qui nous chante « Oh mon bateau, bienvenue à bord de l'Île-de-France », l'un des plus beaux paquebots jamais construits à Saint-Nazaire. Il faisait les liaisons transatlantiques et à partir de la seconde moitié des années 20. Et on a choisi cette période particulière avec vous, Dorian d'Allongeville, parce que c'était un paquebot qui, à l'époque, concentrait tout ce que la France pouvait faire de beau en matière d'artisanat et même d'art, et notamment de cette période art déco. D'abord, pourquoi on l'a baptisé Île-de-France, tiens?
En fait, il y a eu toute une tradition, fin 19e, début du 20e siècle, où on utilisait des noms de provinces françaises. On a eu la Bourgogne, la Champagne, la Lorraine, la Savoie. Et puis, au début du siècle, on a eu le paquebot Paris, on a eu le paquebot France, le deuxième du nom, pour être exact, avant le grand successeur de 1962. Et puis, en fait, on a choisi Île-de-France parce que ce sont des noms qui font consensus. C'est-à-dire que plutôt que de choisir le nom d'un homme politique, éventuellement, qui pourrait être contesté, eh bien, on choisit un nom de région. Il ne faut pas oublier que ce sont des navires qui sont des ambassadeurs flottants de la nation. Et donc, choisir Île-de-France, d'une certaine manière, c'est faire le pari un petit peu de quelque chose qui aura du succès. Et on va pouvoir, comme ça, décliner à bord toute une décoration liée à la thématique Île-de-France.
Alors justement, si on visite l'une des suites présidentielles les plus luxueuses, qu'est-ce qu'on peut trouver comme participation de ces artisans d'immenses talents?
Bien, c'est le président de la compagnie, John Dalpiaz, qui avait décidé de tourner le dos définitivement au style du passé. Vraiment, en décidant, on va faire du contemporain et uniquement du contemporain. On va plus du tout aller chercher dans les grands styles du passé. Mmh. Et donc, à la suite de l'exposition internationale des arts décoratifs modernes de Paris en 1925, qui a vu se consacrer l'art déco, on va faire appel pour Île-de-France à vraiment aux plus grands artistes du moment, plus grandes manufactures du moment. Les artistes d'ailleurs vont s'arracher des morceaux de décoration du navire. On va vraiment voir une lutte d'influence.
Il fallait en être.
On écrit aux députés, aux sénateurs, aux ministres pour essayer d'obtenir tel ou tel morceau du navire. Alors on voit des noms comme Ruhlmann, Jean Dunant, Dupas, Lalique, René Proulx, Suémar. Voilà, donc chacun s'illustre dans la pureté des lignes, dans des matériaux nobles. On utilise des marbres, de la marqueterie, des émaux. Et cette liste des participants, elle traduit vraiment un travail collaboratif qui est spécifique à l'art déco. L'architecte conçoit l'espace, le décorateur va ensuite l'orner, et puis il y a des interventions diverses d'artisans pour compléter les décorations.
Dorian d'Allongeville, la gastronomie, évidemment, c'est très important sur une traversée comme ça. D'ailleurs, elle est mise en avant dans l'exposition que l'on peut visiter au musée Art déco de Boulogne-Billancourt. On peut lire les menus et là, on voit, mais quelle chance, que le chef ne propose jamais sur la carte deux fois la même chose en six jours.
Absolument. Pendant les six jours de traversée, on va avoir un renouvellement permanent des cartes. On compte parfois jusqu'à 80 références de plats différents sur un déjeuner, un dîner.
Avec des plats très français ?
Avec des plats très français, c'est-à-dire une des spécificités de la compagnie, au-delà de proposer le vin à discrétion. Alors bien sûr, on a toujours accès aux vins de cave hein, pour les gens les plus fortunés, mais ils vont toujours porter un soin particulier au terroir français et donc proposer des spécialités régionales le midi et le soir pour aussi faire œuvre de communication et de publicité touristique. Hein. On est vraiment dans cette idée.
Mais est-ce qu'on fait la fête sur un paquebot comme ça ? Il y a des salons, il y a des, je sais pas, des clubs, des bars. Racontez-nous. Un peu.
On fait beaucoup la fête et on se divertit énormément sur un paquebot comme celui-ci. Alors, Île-de-France ne déroge pas à la tradition instaurée par la compagnie, vraiment de mettre en avant l'art de vivre à la française. On va avoir des salons de lecture et de correspondance avec des bibliothèques, une boutique du bon marché dans laquelle on va pouvoir aller s'approvisionner en foulards, en diadèmes, en lingerie de luxe, un fleuriste.
Si m'acheter un diadème, oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on achète assez régulièrement. Bah, mais c'est une clientèle très huppée.
Vous vouliez partir en troisième classe finalement. Donc,
oui, mais bah, je crois que je ne peux même pas le diadème, vous voyez.
le diadème est nécessaire si vous voulez accéder à la table du commandant, par exemple.
Oui, c'est vrai.
Ah oui, oui, enfin c'est nécessaire, je dirais. C'est surtout quelque chose qui devient nécessaire si vous voulez vraiment faire un coup d'éclat.
Il y avait un dress code donc aussi sur ce paquebot alors.
Alors il y avait un dress code et on se changeait, enfin en première classe on se changeait énormément, ce qui d'ailleurs créait un entassement de mâles absolument extraordinaire à la fois dans les cabines mais surtout dans les cales.
De mâles pour mettre les vêtements, pas les messieurs, évidemment. Alors pour raconter la... bonne blague, hein. Pour raconter la... Merci de rire, Sylvie. C'est vraiment sympa d'être solidaire. Bon, on va raconter la fin de l'histoire de ce paquebot transatlantique et pour ça, il faut écouter l'extrait de ce film, son titre c'est Panique à bord, 1960.
Belle journée, n'est-ce pas ?
Votre première traversée, Madame Anderson ?
Mais oui, c'est la première pour nous trois. Comment connaissez-vous mon nom, commandant ?
C'est mon petit secret.
Mon mari vient d'être affecté à Tokyo.
Oui, je pense que nous allons y rester un bon bout de temps. Oh, vous y plairez sûrement. Bien sûr, c'est tout à fait différent de Sacramento.
Oh, vous savez d'où nous venons également ?
Je sais tout sur mon bateau.
Et donc, Panique à bord, film américain 1960, qui permet, Dorian d'Allongeville, de raconter la fin de l'histoire de ce bateau. Pourquoi ?
Bah, en fait, il a une fin qui est à la hauteur du mythe Île-de-France. Ça aurait été trop simple, finalement, qu'il parte juste à la déconstruction. Oui. En fait, quand la compagnie décide de le réformer, il y a une mobilisation qui s'effectue d'emblée pour essayer de sauver ce navire, comme on connaîtra quelques années plus tard avec le paquebot France. Mmh. Bon, malheureusement, cela ne marche pas et on décide de vendre le navire aux Japonais. Donc, il y a un équipage japonais qui vient au Havre, qui s'approprie le navire. Il est rebaptisé le Furanzu Maru, donc le navire français en japonais. Mmh. Et puis, on pense que l'histoire s'arrête là et qu'il va partir directement à la déconstruction. Mais non, c'était sans compter sur un dernier rebondissement ultime. Le navire est finalement loué par la Metro-Goldwyn-Mayer pour servir de tournage à un film de série Z, Panique à bord, effectivement, dans lequel se passe l'aventure d'un naufrage. Et puis, on utilise en fait le navire comme décor, donc on fait exploser la salle à manger, une cheminée tombe, le navire est plus ou moins échoué. Mais encore, on va devoir le renflouer pour le renvoyer ensuite vers les chantiers de déconstruction. Et donc là, c'est l'ultime chapitre. Le navire, après avoir bénéficié d'une cérémonie shintoïste d'hommage à son âme, il est finalement déconstruit définitivement au Japon en juillet 1959.
Quelle histoire, quel destin pour ce paquebot Île-de-France. Et on peut continuer le voyage donc avec cette exposition Art déco, un art de vivre. Et puis il y a ce livre qui accompagne l'exposition qui est publié aux éditions In Fine avec la ville de Boulogne-Billancourt. Merci beaucoup.
Merci à vous pour ce voyage.
voyage. De toutes ces explications et de ce récit qui nous a fait voyager. C'était bon.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.